c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio.
Sur 24.
Au temps de l'Avent, les coqs chantent par tous les temps, dit le dicton de ce 2 décembre. Eh bien oui, il fait très froid. Alors je ne sais pas si les coqs chantent, mais il n'y a pas que les coqs qui ont le droit de chanter. Et nous le ferons ensemble tout à l'heure à partir de 10h. Mais là tout de suite, je suis ravie que vous soyez avec moi pour cette nouvelle édition de l'air du temps. Alors je vous souhaite le bonjour en espérant que vous commencez bien ce dernier mois de l'année. On dit souvent que décembre est le mois de la magie, de la lumière et de l'amour. Alors de tout cœur, j'espère que cela sera vrai pour vous. Et tout d'abord, passez une très bonne matinée et une excellente journée. Et surtout, n'oubliez pas de dire je t'aime.
Sors de la gare, je t'imagine sous la pluie. Le taxi démarre et t'emmène dans Paris. Tu es si fragile, un peu timide, on dirait que tu roules dans la ville vers un rendez-vous secret. Ce soir dans la salle, je te devine dans le noir. Le temps d'une escale, je t'aime déjà sans te voir. Tu es près de moi, et quand se lève le rideau, je chante pour toi ces quelques mots. C'est une chanson pour dire je t'aime. Où que tu sois, tu comprendras. Pas de discours, rien qu'un refrain. Et nous partageons ces quelques mots d'amour sur ma chanson. Encore une route et je m'en vais ailleurs. Je garde sans aucun doute un peu de toi sur mon cœur. Si un soir de décembre tu t'ennuies un peu de moi, dans la douceur de ta chambre, écoute ma voix. Chanson pour dire je t'aime. Où que tu sois, tu comprendras. Pas de discours, rien qu'un refrain. Et nous partageons ces quelques mots d'amour sur ma chanson. We'll be right back. t'ennuies un peu de moi. Dans la douceur de ta chambre, écoute ma voix. C'est une chanson pour dire je t'aime. Où que tu sois, tu comprendras. Pas de discours, rien qu'un refrain, et nous partageons. Tu comprendras. Pas de discours, rien qu'un refrain. Et nous partageons ces quelques mots d'amour sur ma chanson. Ces quelques mots d'amour sur ma chanson.
Sacha Distel, que nous n'oublions pas bien sûr. Très très bonne matinée à vous sur Radio Plus. Alors la semaine dernière, dans notre rubrique « Saletant sur la planète », nous avions abordé avec Jean-Louis le problème du sucre. Ce sucre que l'on trouve partout et même dans les plats considérés, on va dire, comme salés, comme les soupes, les charcuteries ou tout autre plat cuisiné. Alors il est partout ce sucre et on ne le voit pas forcément. Et c'est de là que vient le danger, car danger il y a pour notre santé. On continue donc ce chapitre aujourd'hui. Et puis Bertrand Trinel sera lui aussi avec nous pour parler jardin, mais pas que. Et enfin le docteur Guy de Rognecourt, notre médecin attitré, pourrais-je dire, vous invitera à donner votre sang. Alors cela se passe aujourd'hui à Béthune, au foyer Albert, et ce jusque 19h ce soir. Les conditions avec lui tout à l'heure, mais pour l'heure, optimisme avec Thomas Dutronc, car vive la vie!
Demain j'arrêterai, demain je m'y mettrai, je vois rien, je rêve à la fenêtre. Un jour, faudrait que je m'y mette. Mais y'a de la vie tous les soirs, y'a des filles dans les bars. Allez viens, demain sera trop tard. Y'a toujours une petite fête, promis demain j'arrête. Mais ce soir, la nuit sera sans fin. À l'été, à la vie, au soleil et aux filles, je veux lever mon verre à enrouler par terre. Je rejoins prévu la folie et l'ivresse en chantant dans les rues. J'oublie toutes les promesses. Demain j'arrêterai. Je m'y mettrai, je vois rien, au café, en terrasse. Je suis bien, j'en garde la vie qui passe. Et pourquoi faire aujourd'hui ce que je pourrais faire demain? Vive la vie, comprends comme elle vient. Alors j'appelle mes potes, ça te dirait qu'on sorte. C'est ce soir, demain sera trop tard. À l'amour, au soleil et aux filles, je veux lever mon verre. Allez, viens voir mon frère. C'est pas que le paradis n'a pas tout pour nous plaire, mais j'ai plus chaud en enfer, entouré de mes amis. Je fais des économies, je prévois le reste de ma vie, mutuelle et petit bas de laine. Mon Dieu, que j'aime le système. Demain sera merveilleux, j'aurai ma maison, je serai heureux. Mais je serai vieux, ça c'est ennuyeux. Alors je te les laisse, ma place, mon chien, ma caisse. Résolution, je prends plus de résolution. À l'été, à la vie, au soleil et aux filles. Viens donc lever ton verre, renversons les barrières. Demain on sera tous frères, demain y aura plus de guerre. On mangera à sa faim, en attendant je m'en sers un. À l'amour, à la vie, au soleil et aux filles. Je veux lever mon verre et rêver devant la mer.
Thomas Dutronc sur Radio Plus. Alors, notre enquête dans l'air du temps, eh bien, figurez-vous qu'à Montréal, les médecins peuvent rédiger une ordonnance de muséothérapie, soit une entrée gratuite pour le musée des beaux-arts de la ville. Une démarche unique, eh oui, parce que il paraît que voir du beau fait du bien, et cela provoque une sécrétion de dopamine, qu'on appelle aussi l'hormone du bonheur. Alors, par exemple, la contemplation d'œuvres d'art abstraites libère dans le cerveau cette dopamine, neurotransmetteur du plaisir, et établit de nouvelles sensations émotionnelles et cognitives bénéfiques. Alors, vous n'avez pas le moral, vous ne vous sentez pas bien, eh bien, vous savez ce qu'il faut faire, allez au musée. Alors, Juliette, elle, a le sien, un peu spécial, mais qui lui apporte aussi beaucoup de plaisir.
Musée des trucs oubliés, abandonnés tout au fond du grenier. Que de mystères sur les étagères, noyés de poussière légère. Drôle de collection qui ne vaut pas un. Objet menu qu'on avait cru perdu, petit trois fois rien d'à peine hier matin, quand l'automne semblait loin. Au petit musée des trucs oubliés, pas de vitrine, ni dorure, ni feutrine. On flâne au hasard et l'esprit s'égare dans les allées du bazar. Une bague tordue, une poupée nue, des cheveux en tresse, un vieux carnet d'adresse, petit fond de poche de quand t'étais mioche, et voilà l'automne qui s'approche. Au petit musée des trucs oubliés, pas de guide et nos regards humides dévorent la madeleine de photos anciennes de gens qu'on reconnaît à peine. Les perdus de vue, les chers disparus, les incertains et les sans lendemain, une foule disparate, laissée dans des boîtes que l'automne attend sans hâte. Thank you. qui ne valent pas un rond. Des petits je ne sais quoi qu'on regrettera. Quand l'automne sera là.
Eh bien oui, c'était Juliette et qui nous faisait visiter son petit musée à elle. Alors, tout de suite, on plonge dans un autre univers, celui du sucre, avec Jean-Louis Ouettet, président de l'Étrême Nature. Et oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire. Alors, lors de notre dernière émission, nous avions abordé, le thème du sucre. Pourquoi aborder ? Eh bien, parce que le sujet est vaste et en même temps très complexe. Alors, pourquoi ce thème dans Sale temps sur la planète, qui n'apparaît pas à la première réflexion comme un sujet environnemental, mais parce que la consommation de ce sucre est devenue presque un fléau international de santé publique, faisant des milliers de victimes, en provoquant obésité, diabète et cancer. Et notre consommation de sucre ne cesse de croître. Nous en sommes pour certains à 35 kilos par personne et par an. Alors je vous laisse présager des conséquences. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Martine.
Alors la dernière fois, vous nous aviez bien précisé que les glucides sont nécessaires pour nous fournir de l'énergie. Mais attention, les sucres naturels... Surtout, et on a compris qu'il y avait les bons sucres et les mauvais sucres. En tant que mauvais sucre, on entend bien sûr sucre raffiné ou sucre industriel. Et celui-là, on l'a vu, est partout et souvent de façon dissimulée. C'est pour cela, Jean-Louis, qu'il faut savoir bien lire les étiquettes.
Oui, sans s'en rendre compte, il est très facile d'absorber du sucre en grande quantité, tant ce dernier se cache un peu partout dans nos produits de consommation courante. Et c'est là le problème. Une seule solution, bah, c'est lire les étiquettes. Mais l'opération de décryptage n'est pas aisée. Hein. Tant les appellations pour désigner le sucre sont nombreuses, et les étiquettes elles-mêmes sont parfois sibyllines. Hein. Premier conseil pour y voir un peu plus clair, tout ce qui contient les mots sirop, malt, fécule, amidon, et tout ce qui se termine en os, hein, ou en ol, ou en id, bah, ça doit vous alerter. Autre détail qui est non moins important, les ingrédients sont indiqués non pas dans leur alphabétique, ou jetés au hasard, mais selon leur quantité par ordre décroissant. Ce qui signifie, par exemple, que pour, par exemple, une épaisse tablette de plutôt haut de gamme de chocolat au lait aux noisettes entières, qui affiche dans les premiers ingrédients de la liste sucre, noisettes, 22%, pâte de cacao, beurre de cacao et les crémeux en poudre, bah, il s'agit en fait, en réalité, d'une tablette de sucre, hein, faut le dire, aux noisettes et au cacao. Donc, méfions-nous, apprenons donc à bien lire les étiquettes. Le sucre, il est présent à l'état naturel dans les fruits et les légumes, ainsi que dans d'autres aliments qui contiennent des glucides, comme les produits laitiers, les céréales et les légumineuses. Dans le détail, sur l'étiquette d'un produit, le mot glucide désigne le total de sucre simple et complexe présent naturellement ou ajouté. Donc s'il apparaît seul, sans plus de détails, ce signifie qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Par contre, si le mot « dont sucre » est indiqué, cela ne désigne que les sucres simples, c'est-à-dire le saccharose, le glucose, le fructose, qui peuvent être naturels ou ajoutés. Donc difficile ainsi de savoir quelle est la part de sucre inhérent à l'aliment de ceux qui sont ajoutés lors de la fabrication. Donc la lecture des étiquettes n'est pas facile du tout.
Et oui, et puis justement la semaine dernière, Jean-Louis, vous nous avez dit qu'avant de lire les étiquettes, il faut connaître les produits à éviter absolument.
Bah oui, je pense que c'est le mieux, parce que quelques astuces pour réduire sa consommation de sucre. Alors premièrement, c'est limiter la consommation de jus de fruits. Ah, on peut s'autoriser un verre au cours de la journée, de préférence lors d'un repas ou d'une collation, mais il vaut mieux opter pour un fruit frais, parce que la consommation de jus de fruits est quand même apporte énormément de sucre. Après, il faut limiter la consommation, bien sûr, de soda. On peut se laisser tenter par un soda light, mais il faut préférer de l'eau plate ou gazeuse suivant son goût. ne proposez que de l'eau à table, pas de jus de fruits, de soda, ni de boissons sucrées. Si on a des difficultés à boire de l'eau, il faut en choisir une qui est aromatisée. Mais là aussi, il faut bien garder les étiquettes pour comparer les teneurs en sucre pour les eaux aromatisées. Et puis, par exemple, les glaces, il faut remplacer les glaces par les sorbets. Parce que les glaces sont à base de crème ou de lait, tout agrémenté de produits sucrés, copeaux de chocolat, caramel, alors que les sorbets sont à base d'eau, d'arômes naturels ou artificiels. Et puis, si vous êtes adepte des crèmes desserts, il faut se garder ce petit plaisir pour le week-end ou le remplacer par des yaourts nature ou aux fruits. Donc, les crèmes desserts, il faut savoir que ce ne sont pas des produits laitiers. Hein, elles sont moins riches en calcium et plus riches en sucre et en graisse que les yaourts. Il faut réserver les pâtisseries, les viennoiseries pour des occasions particulières. Ne pas éviter de grignoter en regardant la télévision ou en travaillant sur l'ordinateur. Et puis, plutôt que de dévorer une plaquette de chocolat, on peut en manger un peu moins. Hein. On peut en manger lentement 2 ou 3 carrés. Et si au cours de la journée, on a une envie de grignoter, faut plutôt opter pour un fruit ou un produit laitier. Donc, et puis aussi, au cours des repas, il faut augmenter les portions de féculents. Donc, c'est les alliés anti-fringales. Et puis, éviter de stocker des gâteaux secs à la maison, parce que c'est vrai que c'est tentant. Alors, on dit aussi des produits allégés ou light, puisque...
Oui, j'allais vous le dire, oui.
Voilà. Bon, les appellations, attention, elles peuvent être trompeuses. Hein. C'est pas
tout
parce qu'un produit est dit light qu'il est pauvre en calories. Il peut peut-être être moins riche en sucre, mais plus en gras. Donc, avant de l'acheter, regardez les étiquettes et évitez quand même d'abuser de ces produits.
Et puis, justement, vous parliez du cola light, Jean-Louis. Se méfier surtout des édulcorants, et rien que sur les édulcorants, on pourrait faire bientôt une
Bien
émission
sûr,
complète.
Il y a beaucoup à dire sur les édulcorants.
Tout à fait. Alors en fait, Jean-Louis, notre civilisation occidentale impose l'idée que les techniques ou la science procurent à l'homme toujours plus de bonheur, et le sucre en fait partie, résultat bien souvent de combinaisons chimiques dont les effets nocifs se révèlent plusieurs années après. Alors, les industriels savent que le sucre agit sur le cerveau comme une drogue et cherchent donc à nous rendre dépendants, ce qui est grave pour nos enfants. Et justement, le meilleur exemple est peut-être les céréales du petit déjeuner.
Et oui, tout à fait, parce que 90% des enfants mangent des céréales au petit déjeuner avec du lait. C'est une véritable catastrophe alimentaire, alors que pourtant les parents pensent bien faire, hein, et faire vite aussi, parce que on va pas se le cacher, c'est quand même très pratique, rapide les céréales, bien plus que d'aller chercher du pain, le couper, le tartiner de beurre, de confiture ou de miel. Alors on croit que c'est sain, équilibré, diététique, et en fait la plupart des produits ne le sont pas. Si vous prenez par exemple des flocons d'avoine, oui là c'est bien, c'est top. En revanche, si vous optez pour des pépites fourrées de chocolat, soufflées au miel ou croustillantes à souhait, y a fort à parier qu'on va faire exploser tous les scores au niveau des sucres. Alors, il y a de nombreuses céréales du petit déjeuner qui sont vendues en supermarché, qui présentent un double problème nutritionnel. Elles sont trop riches d'abord en sel, et puis leur index glycémique est trop élevé. Faut savoir que les aliments avec un index glycémique au-delà de 70, alors l'index glycémique, c'est la façon dont le sucre est absorbé. Tous les aliments n'ont pas le même index glycémique. Donc, il faut avoir un index glycémique assez bas. Donc, si on prend des aliments avec un index glycémique au-delà de 70, c'est à consommer avec modération. Alors, si vous regardez les cornflakes, 77, les Choco Pops, 80, les Rice Krispies, 82, c'est des véritables bombes sucrées à digestion rapide. Et qui n'empêche pas les fringales après.
Alors, justement, le rôle du sucre est principalement énergétique, et on en a besoin quand il est naturel, car il contient des vitamines et des antioxydants. Mais le sucre raffiné, et donc pas naturel, peut devenir un véritable poison. Et précisons qu'il n'y a aucune contre-indication à arrêter le sucre industriel. Au contraire, il n'y a que des bénéfices. Alors, par contre, Jean-Louis, la prohibition ne fonctionne pas avec les enfants. Hein, l'interdiction totale, rigide, en fait, un produit, cette interdiction en fait un un produit, on va dire, diabolique. Et il faut donc expliquer aux enfants et aux ados que c'est à nous à ne pas commencer, et c'est à nous à ne pas commencer à leur en donner lorsqu'ils sont en bas âge. Les bonbons ne doivent pas, par exemple, être une récompense. Et justement, vous parliez des sodas, quand ils sont tout petits, eh bien, il vaut mieux les habituer à l'eau.
Tout à fait. Bah, c'est un problème d'éducation, hein, ça dès le plus jeune âge. Hein. Il s'agit bien sûr pas d'interdire, mais de limiter, de mettre en garde. Mmh. Et je pense que bon, le rôle des parents est fondamental, mais aussi le rôle de l'école, le rôle des communes est important. Moi, ça me hérisse de voir encore beaucoup de jus de fruits sucrés, de soda, servis dans des fêtes communales. Je pense que il y a un gros travail à faire au niveau des élus et même des enseignants pour justement éviter ces sucres qui sont délivrés lors de fêtes. Hein. On a l'impression que ces jus de fruits, bah, c'est un produit de fête. Hein. Les sodas, c'est la boisson de la fête. Donc ça, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus.
Mais alors Jean-Louis, peut-on vraiment contrôler notre absorption de sucre pour pouvoir la réduire? Parce que c'est quand même pas facile de calculer tout au long d'une journée. Hein. L'Organisation mondiale pour la santé recommande dans la mesure du possible de limiter l'apport en sucre à 5% de la ration énergétique totale chez l'adulte et l'enfant. C'est pas simple, hein, on dirait un problème de certificat d'études. Alors je dis cela pour les anciens. Hein. Quoique pour l'enseignant en mathématiques que vous avez été, c'est peut-être un peu plus simple, non?
Bah, il s'agit pas de calculer toute la journée, hein, mais de limiter sa consommation. Bon, c'est vrai que c'est difficile au début, puis ça devient une habitude. On n'est pas en permanence avec une calculette, puis entre nous, c'est quand même moins contraignant de limiter sa consommation de sucre que de se faire des piqûres d'insuline à intervalles réguliers. Hein, il faut penser à ça aussi. Hein.
Tout à fait, ouais.
Donc, parce que une fois qu'on a du diabète, eh bien, le diabète, on va pas l'arrêter comme ça du jour au lendemain.
Mais alors, justement, vous parliez des communes et tout ça, est-ce que les pouvoirs publics n'auraient pas un rôle déterminant à jouer?
Ah bah tout à fait, hein, tout à fait. Faut savoir que la révolution industrielle a généré une alimentation de plus en plus riche en sucre ajouté et que c'est un enjeu de santé publique au même titre que l'alcool et le tabac. Donc malheureusement, face au lobby du sucre, la santé publique ne fait malheureusement pas le poids. Faut savoir que, comme le révélait le New York Times l'année dernière, avec un groupe de scientifiques qui est financé par Coca-Cola, donc qui affirmait que la prise de poids et le diabète n'avaient rien à voir avec la nutrition et les boissons sucrées. Donc on est en train de faire passer ces messages. Hein. On est vraiment face à un choix, un véritable choix politique. Ah bah des solutions, il y en a. Hein. Il y a des rapports parlementaires qui sont régulièrement lancés, mais qui en fait ne sont pas suivis d'effet. Bah, il faudrait changer les taux de TVA sur les produits gras, salé et sucré, entre autres les boissons sucrées. Il faut savoir que le taux de TVA actuellement il est de 5,5%. Hein? Donc bah oui, alors que les autres produits c'est à 20%. Donc bah oui, le prix de 6 canettes de soda augmenterait d'une trentaine de centimes d'euros. Il y a bien entendu un prélèvement qui est fait actuellement, mais qui est un peu dérisoire. Donc je pense qu'il y a des solutions. C'est du courage politique. Hein. Il faudrait les mettre en œuvre. Malheureusement, c'est pas très populaire, hein, parce que.
Bien sûr, voilà. Alors quand oui.
Ah oui, parce que bon, moi je dire, par exemple, si on prend dans les supermarchés, les boissons sucrées sont en tête de gondole, parce que c'est ce qui est vendu le plus.
Voilà. En tout cas, Jean-Louis, eh bien, je reste persuadée, vous aussi, que notre santé et celle de nos enfants dépendent souvent de nous et de ce que nous mangeons, entre autres, ce qui veut dire que cela vaut le coup quand même de rester vigilant et de se prendre en main et donc de passer un petit peu de temps sur ce que l'on nous donne à ingurgiter. Alors, ne soyons pas que des homo economicus, mais restons des acteurs qui sachons faire des choix en pleine conscience. Voilà, n'est-ce pas, Jean-Louis?
Tout à fait.
Merci à vous.
Je pense qu'il y a beaucoup de bonne volonté, de choix, et puis d'information, d'éducation. Je pense que notre rôle, c'est important.
Voilà,
c'est
d'informer.
Sensibiliser, d'éduquer.
Merci, Jean-Louis.
Merci.
Bonne semaine à vous.
À bientôt.
À bientôt.
Pour ça, demain sans faute, je peux pas m'en passer. Attention, la marche est haute, faudrait pas tomber. Quand tu vas chez le marchand, mon ami, t'es en danger d'acheter.
Quand tu vas chez le marchand, mon ami, t'es en danger d'acheter.
J'y fus y a pas longtemps. Bonjour mon vieil ami qui m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui ferait ton bonheur? J'ai pas eu le temps de répondre. Il me dit, passe par ici. Je te le montre avant tout le monde. C'est un spécial samedi. Une grosse télé couleur, antenne et tout compris, 3 mois de garantie et pour un prix d'amis. Frère, pas ça pour tout le monde, t'es pas n'importe qui, as-tu 100 piastres comptant, je te fais le reste à crédit. Le matin, plus d'ennui, ta femme, sa gymnastique, tes enfants, les comiques, tu dors jusqu'à midi. Mettez-vous à ma place, j'étais comme étourdi. Il me dit, toi t'es sportif, une bière pour mon ami. Il me faut ça demain sans faute, je peux pas m'en passer. Attention à la marche haute, faudrait pas tomber.
Il me faut ça demain sans faute, je peux pas m'en passer. Attention à la marche haute, faudrait pas tomber.
Quand tu regardes la télé, mon ami, t'es en danger d'acheter.
Quand tu regardes la télé, mon ami, t'es en danger d'acheter.
Je l'ai tant regardé qu'au bout d'un mois et demi, jour et nuit, pour la faire réparer, qui m'ont dit j'avais pété le circuit. Pour compléter ton set, il dit prends le vidéo cassette, tu copies les parties, puis t'invites tes amis. Moi, c'était toute la nuit, ma femme toute la journée, un bon moment donné, elle s'arrête et puis elle me dit, as-tu entendu ça? Le bel ordinateur, t'as rien qu'à le programmer, tu le branches sur la télé. C'est lui qui fait le budget, les comptes puis l'épicerie. Et pour quelques piastres de plus, il joue avec les petits. Puis le temps que je les attends, mes beaux après-midi, étendus au soleil, tu serais trop fin, chérie. Il me faut ça demain sans faute, je peux pas m'en passer. Attention, la marche est haute, faudrait pas tomber.
Gilles Vigneault sur Radio Plus, jardiner bio et de façon naturelle, eh bien c'est aussi pour notre santé. Tout de suite, on retrouve Bertrand Trinel.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Alors, décembre trop beau, été dans l'eau, mais je retiens surtout celui-ci, Bertrand, beaucoup de pluie en octobre, beaucoup de vent en décembre. Alors, octobre a en effet été bien arrosé et nous avons assisté à un changement de pluviométrie après plusieurs mois d'une sécheresse intense. Alors, cela influencerait-il Éole? En tout cas, on se souvient bien de Lothar, hein, qui est ce fameux vent qui a eu lieu le 25 et 26 décembre 99 et qui a balayé le nord du pays avec des rafales. Et puis on se souvient aussi de Martin, là, qui a soufflé le 27 et 28 décembre 99 et qui a circulé nettement plus au sud. Les vents forts ont concerné principalement la moitié sud de la France. Alors, savoir s'il y a une relation de cause à effet. Bon, Bertrand, en tout cas, les jardins deviennent un peu tristes avec, entre autres, ces feuilles mortes qui trempent dans l'eau. Et ça fait un peu tisane. Alors, on parlait vent. Lorsque ceux-ci sont violents, évidemment, cela peut faire des dégâts dans le jardin et notamment sur certains arbres. Alors, il y a des branches cassées, des arbres arrachés quelquefois, des arbustes déterrés. Alors, quoi faire avec tout ça, Bertrand?
Eh ben alors oui, bien sûr les dégâts dépendent de la force du vent. Hein. Normalement, un arbre en bonne santé va résister au vent de nos régions sans problème. Alors, mais lors de tempêtes entre guillemets normales, il y a cependant des branches qui cassent et des arbres qui tombent. Alors, si l'arbre est grand, ben il y a pas grand-chose à faire. Hein. Si l'arbre est grand et qu'il est tombé, ben on le débite, on peut pas le redresser. Par contre, si l'arbre est relativement jeune et pas complètement arraché, on peut essayer de le redresser pour le sauver. Donc, on va commencer par couper proprement les racines abîmées. On arrose copieusement le sol. Afin de faciliter, en ce moment c'est bien arrosé, hein, afin de faciliter le redressement de l'arbre, et il faut souvent être à plusieurs, hein, ou disposer d'un tiers fort pour le faire, mais une fois l'arbre redressé, vous remettez la terre en place, et vous prévoyez un super bon tuteur, et vous arrosez copieusement. L'année suivante, souvent, tout se passe bien, l'arbre va reprendre. Alors, bien souvent, lors de grands vents, ce sont des branches mortes qui cassent, donc on a tout intérêt à les éliminer nous-mêmes, chaque année. Chaque année, on va faire le tour de nos arbres, les branches mortes, hop, on les coupe, et... couper Le bois mort ou bien une branche qui gêne, c'est une bonne chose. Hein. Par contre, les élagages, hein, on voit souvent des arbres qui sont élagués de façon drastique. Hein.
Oui.
Ça, c'est, ça fragilise les arbres. Hein. C'est très mauvais pour les arbres. En plus, c'est sujet aux maladies. Hein, et les nouvelles branches qui vont pousser vont casser beaucoup plus facilement. Donc un arbre est fait pour s'épanouir. Et puis lorsqu'il est bien épanoui, même s'il est grand, il va résister très bien aux tempêtes.
Et puis je crois qu'il faut mettre un petit peu de quelque chose en forme de pansement peut-être quand on coupe les branches. C'est pas utile.
C'est pas vraiment utile de mettre. Il y a beaucoup de pansements. On revient là-dessus sur les pansements tout ça. On peut bien nettoyer la plaie, mais sans mettre vraiment en pansement. On peut mettre simplement un peu de silicate de soude. Silicate de soude. Et ça cicatrise, mais. Non, il ne faut pas mettre des mastics et des trucs comme ça, ce n'est pas la peine de trop en mettre. Hein.
D'accord. Alors, et puis, puisque c'est la bonne saison pour planter, Bertrand, et puis lorsqu'on veut mettre un arbre ou un arbuste en zone venteuse, il faut d'abord n'acheter que des végétaux à racines profondes, c'est quand même mieux.
Ouais, effectivement, en ce moment, et bien sûr en période hors gel, c'est le bon moment pour planter des arbres. Hein. Il y a plus de montée de sève, hein, donc la sève ne monte plus. La priorité est donnée au développement des racines, pour qu'elles se développent bien. Donc j'invite tous nos auditeurs à en planter le plus possible des arbres, hein, ce sera une bonne chose pour les générations futures. Alors, beaucoup d'arbres ont des racines profondes, qui vont bien sûr plus résister mieux au temps, à savoir qu'une racine profonde comme un chêne et tout ça, au bout de 80 ans, la racine se nécrose et on n'a plus de racines profondes, hein, on n'a plus de racines verticales. On peut donc supposer que les racines profondes vont résister mieux au déracinement, par exemple, il y a le ginkgo biloba, le cerisier, le charme, le sorbier, il y en a plein, hein. Beaucoup mieux que celle à racines superficielles, parce que l'aulne, l'acacia, le chêne des marais, etc., ils se trouvent dans un milieu humide, ont des racines superficielles, eux résistent beaucoup moins au vent. Mmh. Hein? Mais ce qui est certain, c'est que si un jour on a des vents supérieurs à 150 km/h ou autour de 150 km/h, bah, qu'ils soient profonds ou superficiels, les arbres casseront et seront déracinés. Hein, ce fut le cas, on en a parlé de 1999, mais quand on regarde les archives, en janvier 1739, il y a eu des grandes tempêtes, alors là, on ne savait pas à quelle vitesse allait le vent, mais beaucoup d'arbres ont été arrachés, quasiment la plupart des arbres ont été arrachés ou cassés.
Mmh.
Mais donc ça peut encore arriver.
C'est vrai que c'est quand même pas bénin, un coup de vent violent. Il y a certaines précautions à prendre dans un jardin, près d'une habitation, pour éviter aussi quelquefois certains dégâts. Les gens ne se rendent pas toujours compte que les arbres grandissent, comme on a eu déjà l'occasion de le dire dans cette rubrique. Les arbres grandissent et quand ils sont trop près de la maison et qu'ils peuvent tomber, ben évidemment, ça fait des gros dégâts, notamment sur les toits. Et ça peut même faire des morts. Hein.
Ouais, tout à fait. Donc, il vaut mieux éviter de planter un arbre à proximité des maisons. Déjà, le système racinaire de l'arbre, quand il sera adulte, il va détériorer les trottoirs, peut-être même les fondations de la maison. Donc, c'est sûr qu'en cas de tempête, il y a des branches qui vont casser, qui vont tomber sur les tuiles. Ou pire, si l'arbre tombe, alors là, c'est encore pire. Hein. Alors, lorsque vous achetez un arbre, vous allez trouver sa taille sur l'étiquette. Donc, c'est bien de regarder, par exemple, tel arbre va faire 10 mètres. Mais c'est pas l'arbre. La taille de l'arbre adulte, c'est la taille de l'arbre à 10 ans. Ça veut dire qu'il va continuer à grandir. Et puis certains spécimens vont grandir beaucoup plus vite, d'autres bien sûr beaucoup moins vite. Donc faut vraiment regarder les étiquettes et puis s'imaginer l'arbre à l'âge adulte. Et c'est vrai, comme vous le disiez, qu'il y a des gens qui ont planté des arbres devant leur porte, à 2 mètres de la porte, et puis 15 ans après, ils sont obligés de couper l'arbre. Donc c'est un peu dommage, c'est des erreurs qu'on fait toujours. Et qu'il vaut mieux éviter, quoi.
Alors, Bertrand, lorsque nous souhaitons acheter un arbre ou un arbuste conditionné en motte, il peut arriver qu'elle soit, cette motte, emballée dans un filet. Alors, je crois qu'on appelle cela une tontine. Alors, à quoi sert-elle? Je suppose qu'il faut l'enlever avant de planter.
Oui, alors, effectivement, en cette période, on peut acheter soit des arbres à racines, soit des arbres en pot, soit des arbres en motte. Et lorsque c'est en motte, c'est maintenu par une tontine. Alors, pour les gros spécimens, la tontine, c'est un grillage. Pour les autres, pour les tailles normales, c'est soit un filet en plastique, soit une toile de jute. Alors, cette tontine a bien sûr sert bien sûr à maintenir la terre autour des racines, pour pas qu'elle tombe, qu'elle s'effrite, et donc c'est utile. Mais lorsque vous avez placé votre arbre dans le fond, si votre arbre est entouré d'une tontine en grillage ou en plastique, vous l'enlevez totalement. Si c'est une toile de jute, alors là, il est impératif de dénouer le nœud. Parce que la tontine, on termine autour du tronc, on fait un nœud autour du tronc avec la tontine, et là, il faut vraiment dénouer le nœud, laisser tomber la toile de jute sur le côté s'il faut, et puis ça va se décomposer tout seul dans la terre au fil du temps. Donc il n'y a pas de problème avec les tontines en jute.
Alors Bertrand, je pense à vous actuellement, à chaque fois que je me rends chez mon marchand de légumes bio, hein, j'insiste, mais qui pourtant a encore des tomates sur son étal. Alors, de où viennent-elles et peut-on encore manger des tomates en hiver ?
Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on trouve encore des tomates sur les étals, et bien sûr des tomates bio chez notre maraîcher bio.
Oui.
Alors, ça veut dire qu'il en a dans ses serres, il en a planté dans ses serres, et c'est vrai qu'en ce moment, il y en a encore quelques-unes, naturellement, qui viennent. Hein. Mais en hiver, on ne devrait plus trouver de tomates, c'est un non-sens. Donc, celles qu'on trouve viennent forcément de très loin, elles viennent du Maroc ou d'Espagne ou d'ailleurs, ou de soie de serre chauffée. Mais dans les deux cas, le bilan carbone, c'est désastreux, quoi. De plus, tous ces tomates-là n'ont pas la qualité gustative qu'ont les tomates qui sont là mûries au soleil estival. Hein. C'est sûr que ça n'a rien à voir. Alors l'idéal, ce serait d'acheter que des fruits et légumes de saison.
Bien sûr. Alors la semaine prochaine, on parlera aussi des cendres parce que je vois, bon, il commence à faire froid, ce matin il gelait. On voit beaucoup de cheminées qui sont allumées, qui se sont allumées. Hein. Et donc, à savoir qu'on peut faire beaucoup de choses avec les cendres et on en parlera la semaine prochaine, Bertrand. Et puis, par contre, vous voulez nous faire savoir que le marché de Noël du foyer des jeunes de Saint-Venant aura lieu le vendredi 6 après-midi et le samedi 7 décembre au matin. Alors je crois que cela se passe rue de Paris à Saint-Venant.
Oui, alors déjà j'ai fait une erreur, c'est pas le vendredi 6, c'est le vendredi 17 après-midi.
Ah, d'accord.
Et le samedi 18 décembre au matin.
17 et 18 décembre.
17 et 18 décembre, donc ça se trouve dans leur atelier rue de Paris à Saint-Venant. Hein. Donc ils ont un local où ils font des activités créatrices. Et donc, on y trouve beaucoup de créations. Hein. Et il y a plusieurs sections de loisirs créatifs qui font de très belles choses. Donc, je vous invite à aller au marché de Noël dans leur atelier.
Voilà.
Il y aura que le foyer des jeunes qui sera là. Il n'y aura pas d'autres exposants.
D'accord. À Saint-Venant, 17 et 18 décembre.
Voilà.
Bertrand Trinel, merci. Et puis, je vous dirai à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci Bertrand. Très bonne semaine à vous.
Allez, merci. Bonne semaine.
Effectuer un geste qui sauve des vies, c'est possible, vous le savez, grâce au don du sang, qui est un acte bénévole, volontaire et anonyme. Docteur Guy de Rognecourt, bonjour.
Bonjour.
Alors, en partenariat avec le Rotary Club Béthune-Bruneau et la municipalité de Béthune, l'EFS, c'est-à-dire l'établissement français du sang, est présent actuellement à Béthune au foyer François Albert, un rendez-vous que vous donnez, docteur, à chacun d'entre nous, enfin à ceux qui peuvent donner leur sang.
Oui, bien sûr, vous savez que les besoins sont de plus en plus difficiles, que la réserve est de plus en plus petite, et donc nous faisons appel à tous les donneurs, aussi bien généreux habituellement que potentiels, pour venir donner leur sang aujourd'hui.
Voilà, et puis bon, tous les bruits qu'on entend derrière vous, c'est parce que vous êtes justement sur les lieux, c'est-à-dire au foyer François Albert à Béthune. Alors, évidemment, c'est important, docteur, de faire don d'un peu de son sang.
C'est très important car les besoins sont immenses. Quelques chiffres, on a besoin de 1500 poches de sang par jour dans le Pas-de-Calais. Pour la France, il en faut 10 000 par jour. Les réserves sont en baisse car la saison hivernale arrive avec les épidémies, avec le froid. Les fêtes arrivent, il y aura moins de donneurs. Donc des raisons multiples pour qu'on vienne aujourd'hui donner son sang.
Et puis, bien sûr, c'est tout naturellement que le Rotary, on va dire, a provoqué cette collecte, et pour cause.
Pour cause que le Rotary est un club de service pour les gens, servir d'abord, et que parmi les actions du Rotary, notamment sur l'éducation et surtout sur la santé, donner son sang est une action majeure. Vous savez que Action pour la santé, donner son sang pour les autres, c'est sauver des vies. Donc ça fait partie de la devise du Rotary.
Alors, rendez-vous à Béthune durant toute cette journée et vous nous rappelez les horaires, docteur, et le lieu exact?
Alors, le foyer François Albert est devant pratiquement l'école Sévigné et la Sainte Famille, juste avant le stade sportif. Et c'est donc foyer Albert, François Albert, de 8h du matin, ça a déjà démarré, jusque 19h ce soir. L'équipe de l'établissement français du sang est là, médecins, infirmières et tout le nécessaire pour vous aider à supporter le mieux possible cette donation.
Alors, à savoir qu'il faut avoir quand même moins de 70 ans, hein, que ce n'est pas la peine, ça c'est important, ce n'est pas la peine d'être à jeun, c'est pour ça qu'on peut donner son sang jusqu'à 19h le soir.
Tout à fait, c'est pas la peine d'être à jeun parce qu'on vous prélève quand même 400 centimètres cubes de sang. Il faut que vous ayez entre 18 ans et 70 ans non révolus, et il y a des conditions. Est-ce que je les cite maintenant ou tout à l'heure? Je vais vous les citer. Il ne faut pas y avoir de soins dentaires dans les 24 heures précédentes. Il ne faut pas qu'il y ait eu d'extraction dentaire une semaine auparavant. Les donneurs qui ont déjà eu une greffe d'organes ou qui ont fait des transfusions ne peuvent pas donner. Il ne faut pas être enceinte, bien sûr. Il faut avoir accouché il y a plus de 6 mois. Et pour certaines personnes, il ne faut pas qu'il y ait eu de piercing ou de tatouage. Il y a moins de 4 mois et pas de maladie depuis 2 semaines. Voilà toutes les conditions.
Voilà. Et quelques conseils peut-être, non?
Conseils, oui, si vous voulez. On peut donner son sang régulièrement, hein, 6 fois par an pour les hommes, 4 fois par an pour les femmes, mais je renouvelle mon appel, quelques conseils, car il y a simplement parmi la population française que 4% de donneurs, en sachant que la durée de vie du sang est très courte.
Vous êtes en train de tirer des coups de canon, là, c'est pas...
Je tire des coups de canon comme d'habitude.
Alors donc, il faut savoir, pour la partie, il faut savoir qu'après le don, une bonne collation est offerte. Hein.
Alors la collation est offerte par le Rotary Club de Béthune-Bruneau, qui améliore l'ordinaire, je dirais. Mais il y a toujours, bien sûr, du café, des jus de fruits, etc. Bon. Nous avons apporté des viennoiseries toutes fraîches et toutes chaudes.
Ah bon, attention, hein, Jean-Louis Ouatté, président de l'État Nature, vient de nous dire que les viennoiseries, le jus de fruits, c'était pas très bon pour la santé. C'est pas vous, docteur?
Ce sont des aliments transformés, mais bon, pour les donneurs de sang...
Bon, allez, faire, pour une fois...
Voilà,
donc, appel à tous les donneurs, vous l'avez dit, on peut donner 4 fois pour les hommes, je crois, dans l'année, 3 fois pour les femmes, c'est ça?
Alors, c'est 6 fois
pour les hommes,
4 fois pour les femmes.
D'accord.
Parce que, je le répète, la durée de vie est courte, 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges, 1 an pour le plasma. et les besoins sont de plus en plus urgents.
Voilà, donc appel à tous les donneurs, mais aussi à tous, hein, même si c'est la première fois, on peut essayer. Hein, c'est pas...
Exactement.
Tout à fait. Exactement. Donc ça se passe au foyer François Albert à Béthune, et c'est jusque ce soir 19h. Voilà, tout est dit. Docteur de Rognaud-Court, merci. J'espère que l'appel a été entendu pour ce geste, on va dire, altruiste et bénévole. Merci docteur.
Je vous remercie et j'attends plein de personnes.
Voilà, mais on espère, on vous les envoie, on les pousse.
Voilà.
À bientôt.
À bientôt, bonne journée.
Je parlerai de toi, je parlerai de toi. Je ne parlerai pas du monde d'aujourd'hui. Cela ne sert à rien de hurler face au vent. Je n'en parlerai pas. Je n'en parlerai pas, car à quoi sert un cri s'il ne réveille pas la conscience des gens? Je n'en parlerai pas. Je ne parlerai pas des scandales en série, des filles de l'amour qui vivent sans amour, des travailleurs au noir sous-payés, asservis dans des caves humides où n'entre pas le jour. Je parlerai de toi, rien que de toi, qui donne encore un peu de joie à mes années d'automne, de la peur qui m'oppresse, au cœur chaud de tes bras, quand je sens ta jeunesse avide encore sous moi. Je parlerai de toi, je parlerai de toi. Je ne parlerai pas de l'hiver qui s'en vient, jetant sur le pavé ceux qui ont tout perdu. Je n'en parlerai pas. Ceux qui malgré la honte osent tendre la main, des enfants affamés, volés, violés, vendus. Je n'en parlerai pas. Non, je ne dirai rien de ce qui me fait mal, de ce qui me révolte et ce que je ressens. Je n'en parlerai pas, car tout devient banal, et l'odeur de la mort et la couleur du sang. Je parlerai de toi, rien que de toi, qui donne encore un peu de joie à mes années d'automne, de la peur qui m'oppresse, au cœur chaud de tes bras, quand je sens ta jeunesse avide encore sous moi. Je parlerai de toi.
Voilà, Michel Fugain qui a écrit cette chanson pour sa fille. Une lettre d'amour déguisée à Laurette, décédée d'une leucémie. Et oui, donc, donnons notre sang. Eh bien, ainsi se termine cette édition de L'Air du Temps. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Et puis, d'ici là, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et puis la très très bonne matinée dans l'immédiat. Profitez de ce superbe soleil et de cette super journée, on va dire presque d'hiver. Et allez tout de suite à suivre Kaléidoscope, sa musique et ses chansons.